On parle à John Evans, Kokochi, vice-chef et conseiller au conseil des Atikamekw de Wemontachi. En plus de ça, il est en train de terminer sa maîtrise. On va en parler un petit peu en deuxième partie d'entrevue. Et il est père aussi. Donc, je pense que c'est un beau modèle en plus de ce qu'il va venir discuter sur les enjeux en matière forestière en territoire, dans le Nitaskinan, dans le territoire Atikamekw.
Quoi, John Evans?
Oui.
Écoute, là, on a reçu un communiqué cette semaine qu'en début décembre, il y a un nouveau blocus Atikamekw dirigé sur la route 25. Donc, c'est le même endroit qui avait eu lieu le printemps dernier sur la même route. Donc, pour l'instant, la Sûreté du Québec ont des gens sur place, mais il n'y a pas un interdit de circulation pour notre auditoire. Pourquoi un blocus sur la route 25?
Excellente question. Auquel nous aussi, on est allé, on a essayé d'aller chercher l'objectif derrière ce petit mouvement, en fait, et les intérêts derrière les quelques personnes, quelques individus qui maintiennent le blocus, mais il n'y a pas beaucoup de coopération. Donc, je ne sais pas si vous êtes. Pour l'auditoire, en quelque sorte, là, ils critiquent beaucoup le système de la loi sur les Indiens, en fait. Ils critiquent beaucoup aussi les différents conseils tribaux aussi, notamment le CNA. Donc, il n'y a pas...
Le CNA, pour nos auditoires, John Evans, c'est le Conseil de la Nation Atikamekw.
Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est le conseil tribal qui rassemble les trois communautés Atikamekw, Wemontachi, Manawan et Obidjouan. Qui est le conseil tribal est mandaté pour différents dossiers. Il y a différents services dans la communauté, dans les communautés, en fait. Bref.
Qu'est-ce qui critique au niveau de la loi sur les Indiens spécifiquement? Parce que c'est assez large. Il doit y avoir quelque chose de spécifique qui critique plus précisément.
Oui. Dans le fond, ce qui critique, c'est que les conseils de bande, la loi sur les Indiens, ne donne pas de définition large de comment procéder aux différents chemins, en fait. Comment est-ce que les peuples autochtones peuvent s'organiser pour avoir des ententes sur le territoire? Donc, c'est sûr que c'est très limité comme de définition dans la loi sur les Indiens. Et c'est ce qu'ils mettent en valeur, finalement, là, les différents dissidents, là, notamment là, le petit groupe là, qui maintiennent le blocus. Donc,
oui, parce qu'on le rappelle, le territoire dont il est question, c'est quand même un territoire ancestral qui est non cédé. Là. Il n'y a pas de traité qui a été signé, puis c'est un territoire non cédé. Fait que vous avez des revendications pour la gestion de ce territoire-là?
C'est exactement ça. Dans le fond, nous, ce qu'on... Je vais vous expliquer un peu la ligne du temps là, dans la foresterie. C'est qu'à Wemontachi, les gardiens du territoire, c'est ceux qui sont en quelque sorte mandatés par leur famille pour représenter là, les intérêts de la famille, c'est comme des porte-parole des familles. Là. C'est comme des chefs de territoire, des chefs de famille en quelque sorte. Et ces personnes-là, ils avaient remarqué qu'après la COVID, il y avait beaucoup de coupes forestières. Et il y avait des chantiers qui n'étaient pas harmonisés. Donc, là, ils sont rencontrés le service bureau de gestion de territoire du conseil de Wemontachi, et ils nous ont exprimé leur volonté de protéger le territoire, mais pas via une action radicale comme un blocus. Donc, ce qui avait été mis sur la table, c'est peut-être de créer un comité de négociation avec MRNF. Mais comment parvenir à ça? Parce que, rappelons-nous, là, on recule 2021, Manawan aussi, il y avait un blocus dans aux environs de leur communauté. Et là, l'opportunité, en fait, Wemontachi, ils ont vu une fenêtre d'opportunité. Ils se sont dit, on va mettre en demeure le gouvernement provincial, et c'est en février 2022 qu'il y a eu le processus de mise en demeure. Puis quelques semaines après, quelques mois en fait, au mois de juillet 2022, c'est là qu'il y a eu le comité de négociation qui a été créé. Puis après ça, ça a duré un peu plus qu'un an de négociation en fait. Puis entre-temps, au printemps 2023, c'est là où il y a eu le blocus également. Mais je veux juste rappeler, le Conseil n'a jamais donné d'appui officiel au blocus. Donc, en avril 2023, c'est là où on est rentré. Il y a eu quand même cinq nouveaux élus sur 7. Donc, les orientations changent, la passation des dossiers, etc. Mm-hmm. Puis au final, ça fait que ça là, je ne sais pas la date exacte, là, mais au mois de novembre, on a eu la signature. Là, de.
Il y a eu un communiqué là-dessus. Donc, activité forestière en temps de cadre entre les Atikamekw de Wawantachi et le Québec est officiellement signé. C'était un communiqué qui a été diffusé le 30 novembre.
C'est ça. Fait que, c'est ça. C'est exactement ça. Puis là, après ça, la personne, l'instigateur du mouvement n'a pas apprécié le processus là, de signature et critique notamment là, toute entente en lien avec le territoire. Mais nous, il faut savoir que nous, le Conseil collabore beaucoup avec les gardiens du territoire tels que j'avais défini auparavant, un peu plus tôt, là. On collabore beaucoup avec ces gens-là, puis c'est les gens qui nous disent, qui nous expriment leur mécontentement, mais aussi qu'est-ce qu'ils veulent comme amélioration. Puis nous, on est les représentants officiels, on est élus. Donc, c'est sûr que pour parler aux tiers partis, peu importe, les deux paliers gouvernementaux, bien, ça doit passer par nous. Donc, nous, on a compétence à agir au nom des Atikamekw de Wawantachi, mais c'est pas nous. Ce n'est pas le conseil en tant que tel qui détient les droits ancestraux. Ceux qui détiennent les droits ancestraux, c'est tous les Atikamekw de Wawantachi, à Wawantachi. Donc, ça, il faut être clair là-dessus. C'est, nous, on est en quelque sorte des porte-parole.
Oui, c'est ça, vous.
En lumière, on met en valeur leur perspective et on défend qu'est-ce qu'ils veulent.
Les revendications que les membres de la communauté vous présentent. Mais moi, j'ai une question dans le fond, parce que au lieu d'aller à mettons, une assemblée de conseil, pourquoi est-ce qu'ils décident de faire un blocus au lieu de juste s'asseoir à une table puis discuter? C'est qu'ils ont l'impression que les dossiers avanceront pas s'ils passent pas par une action concrète comme un blocus?
On l'a souvent invité. On l'a souvent invité à des séances de consultation. Mm. C'est des vraies séances de consultation parce que c'est des gens qui sont venus sur place, qui nous donnaient des orientations. Et nous, par la suite, on prenait le chemin en fonction de l'orientation. Et on a même fait une séance d'assemblée publique là, à la communauté. Et nous, on a déploré qu'il y avait une très, très basse taux de participation. Mm. Mais écoutez, à date de ce que. On a pris la décision d'aller voir les personnes sur le terrain. On habite dans la communauté, on est très proche. C'est quand même une forme de gouvernement de proximité à Wawantachi. Puis je pense à Wawantachi, c'est pareil, à Obidjan, c'est pareil. On vit avec les membres. Mm-hmm. On vit avec. C'est nos voisins, etc. Fait au final, on demandait est-ce que vous vouliez. Puis finalement, les sept élus ont fait le tour de leur famille et finalement, on a compris qu'il y avait un genre de consensus. Il y avait quelques membres qui n'étaient pas en faveur, mais il y avait des opportunités à venir exprimer leur mécontentement ou qu'est-ce qu'ils voudraient avoir de plus dans l'entente. Puis on les invite, ces gens-là.
C'est pas fini. La porte est toujours ouverte, mais si on revient à l'entente qui a été signée le 30, en terminant cette section-là de l'entrevue, est-ce que tu peux nous dire quelques avancées qui ont été faites qui seraient significatives?
Les avancées qui ont été faites, en fait, c'est on appelle le NAM, une abréviation de Nerizaski Madziwin. Ce sont des zones de protection. C'est les familles ne voulaient pas. En fait, je pense que même les villégiateurs à l'automne, là, ils veulent pas là, arriver à leur chalet et que tout est coupé aux environs. Fait que c'est ça qu'on est allé chercher comme disposition dans l'entente. C'est des zones de protection, mais aussi l'amélioration du processus de consultation. Il y a un comité mixte qui est créé, qui est maintenant en œuvre. Il faut juste qu'il y ait une personne. Il y a trois personnes de chaque côté. C'est-à-dire trois personnes du côté du Québec, trois personnes du côté de Wawantachi, et nous, on réitère, en fait, on, on valorise l'implication communautaire. Donc, on est actuellement à la recherche de personnes pour être du côté de Wemotachi. Et les deux autres dispositions, disons-le comme ça, là, les deux autres dispositions qu'on a convenues, c'est le processus de règlement des mécanismes de règlement des différends. Donc, ça, c'est mis en place. Puis, l'autre aspect, c'est plutôt la sensibilisation aux légiateurs. Donc, il y en a beaucoup qui exprimaient, qui voulaient notamment soulever ou valoriser les droits ancestraux sur Kinidaskinam, en fait.
Donc, il n'y a pas une opposition par rapport à l'exploitation forestière du territoire, mais je pense qu'ils expriment un désir qu'il y ait plus de consultations et que les choses soient mieux faites. Comme vous dites, pendant la COVID, le monde était plus à l'écart. Ils ont peut-être moins remarqué les coupes, l'envergure des coupes. Et puis là, maintenant, dans le fond, ils veulent que ce soit mieux fait. C'est ce que je comprends?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand je suis rentré, moi, en tant qu'élu, moi, mon orientation, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais mon orientation à côté de ma maîtrise, je pensais que tous les Autochtones, en fait, la majorité des Autochtones étaient contre l'industrie forestière. Mm. Mais c'est pas ça, c'est plus, sont contre la manière dont c'est coupé. Sont contre, ils veulent évoluer sur la planification. Là, en ce moment, c'est le gouvernement provincial qui planifie ses plans quinquennaux, là.
Okay.
C'est pas fio, pas fit.
Donc, on peut conclure que le conseil, à tout le moins, est satisfait des avancées qui ont été faites et il y a encore du travail à faire dans la conciliation intracommunautaire.
Ah oui, oui.
Bon, oui, John Evans, on va prendre une petite pause musicale puis je veux que tu nous parles par la suite de ton parcours qui est super intéressant. De retour avec John Evans, Kokochi, vice-chef des Atikameks de Wemotachi. Donc, on a parlé en première partie un peu de la situation que vous vivez, mais moi, je te connais un peu, puis je sais que tu es un personnage super intéressant. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des études, le fait que tu es père en même temps que de jeunes enfants, en même temps que tu es conseiller. Donc, d'où vient John Evans, comme on pourrait dire?
D'où vient Wemotachi?
Oui, bien, j'imaginais, mais d'où vient... Pourquoi tu as décidé de faire des études, les études que tu fais, c'est ta maîtrise que tu fais en ce moment?
Oui, dans le fond, ça part quand même... Ben, je vais vous expliquer demain. Je grandis à Wemotachi, j'ai vécu à Wemotachi jusqu'à 12 ans.
Oui.
Et à partir de 12 ans, je voulais explorer plus de mon côté... sportif, là, fait que je jouais à des doubles lettres.
Oui, parce que tu étais un sportif, un joueur de hockey, il faut le dire.
C'est ça. Oui, je joue au hockey. Puis là, après ça, en étant en ville, mes collègues, mes amis me voyaient aussi dans le football, fait qu'ils m'ont initié au football. Puis j'ai grandi de même. Là,
pour te connaître, tu as la carrure d'un joueur de football aussi.
Oui. C'est ça que mes amis disaient. Fait que. Entre 12 et 17 ans, là, c'est ça qui est arrivé. J'ai joué au hockey et au football. Puis à partir de 17, quand j'ai fini mon secondaire 5, en fait, ce qui était très surprenant, là, même à mes yeux. Et juste pour te dire, mes parents, eux autres, ils voulaient juste que... C'est le minimum, de manière dont ce qu'ils me voyaient, c'était de m'encourager parce que mes notes secondaires 1, 2 jusqu'à 3, là, c'est une expression, là, je passais sur la peau des fesses. Là.
Ouais.
J'avais pas des bonnes notes. J'étais découragé de mes notes, mais au final, ce qui m'encourageait à poursuivre, c'était vraiment l'école. Ah, pas l'école, le sport.
Le sport, fait que ça a été un peu qu'est-ce qui t'a gardé sur les bancs d'école, la motivation qu'il te fallait.
C'est exactement ça. Fait que après ça, cégep, moi, je me suis... Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ben je vais suivre mes amis. Je vais y aller, moi aussi, au cégep. Puis là, je me suis inscrit à... Écoute, j'ai fait quatre programmes. J'avais reçu là, une lettre, à un moment donné, à mi-parcours. Là. Ça m'a pris 4 ans et demi, mon cégep. À mi-parcours, moi, à un moment donné, j'avais reçu un formulaire comme de quoi que j'attestais que j'allais réussir plus de la moitié de mes cours pour la prochaine session. Mmh. Sinon, j'étais expulsé du cégep en tant que tel.
Vous avez fait tout ton cégep, par curiosité?
Je l'avais fait dans trois établissements.
Ah oui.
J'ai commencé cégep de Trois-Rivières. Je suis allé au Collège de la Flèche. J'ai joué au cégep de Trois-Rivières pour jouer au football la première année.
Okay. Et
après ça, deuxième année, Collège de la Flèche pour jouer au hockey.
Mm-hmm.
Donc, j'étais remplaçant en fait collégial 3. Et après ça, j'ai voulu abandonner. J'ai mis de côté mon sport. En fait, là, c'est dans cette période-là où que j'avais connu, en fait, je te dis pas la date exacte, là, mais c'est dans cette phase-là que j'avais connu ma conjointe, puis finalement, on a eu un cadeau de la vie, on a eu un enfant ensemble. Fait qu'après ça, je me suis dit, va falloir que je m'y force, il va falloir que je me pousse de derrière pour réussir mon diplôme, réussir mon parcours collégial. Puis c'est comme ça finalement que